La chronique des matières premières par Benjamin Louvet, gérant de Ophi Asset Management.
On entend de plus en plus parler d'un nouveau super cycle des matières premières, une phase qui emmènerait les cours des matières premières vers des sommets et constituerait une nouvelle opportunité d'investissement. Mais qu'en est-il exactement ? Il est vrai que le cours des matières premières dans son ensemble, mesuré par le Bloomberg Commodity Index, s'apprécie de plus de 20% sur un an. Mais est-ce suffisant pour parler d'un nouveau cycle haussier ? Pour répondre, il faut se concentrer un peu sur la temporalité de cette hausse. D'abord, les matières premières agricoles. Elles ont énormément progressé depuis un an, mais cette progression trouve son explication principale dans les problèmes météorologiques rencontrés sur les principales zones de production. La Russie, en particulier, a mis en place des restrictions d'exportation sur les céréales en raison d'une baisse de sa production, poussant les prix à la hausse. Mais ces hausses pourraient n'être que temporaires. Si la prochaine récolte s'avérait prolifique et permettait de rétablir l'équilibre entre offre et la demande, on ne peut donc pas vraiment parler de super cycle sur ces matières premières trop dépendantes de la situation climatique. Cependant, si la météo devait s'avérer de plus en plus incertaine avec le changement climatique, on peut penser que les phases de stress sur ces marchés, et donc de hausse des prix, pourraient se multiplier. Le pétrole, ensuite, tombé à moins de 20 dollars le baril en Europe en mars de l'année dernière et en territoire négatif aux États-Unis, les prix flirtent aujourd'hui avec les 70 dollars le baril. Super cycle ? Pas si vite. Il ne faut pas oublier que les prix de l'or noir se maintiennent grâce à l'intervention de l'OPEP et de ses alliés, la Russie en tête. À ce jour, les prix du pétrole sont certes remontés, mais c'est grâce à l'action de la Banque centrale du pétrole qui a réduit sa production d'un peu plus de 7 millions de barils par jour, l'Arabie Saoudite rajoutant de son propre chef une réduction d'un million de barils pour aider à équilibrer le marché. Dit autrement, si l'ensemble des pays producteurs produisaient à leur maximum, les prix seraient bien inférieurs au niveau actuel. Pour être assuré de voir les prix de l'or noir poursuivre sur leur lancée, il faudra donc compter sur le talent et sur une parfaite gestion de la situation par l'OPEP en sortie de crise, et plus spécifiquement de l'Arabie Saoudite qui domine le jeu grâce à sa réduction volontaire qui lui permet de dicter à tous les pays producteurs la conduite à tenir. S'il est peu probable que le prix du pétrole s'effondre, la poursuite de la hausse dépendra de la capacité de l'Arabie Saoudite à piloter la sortie de crise sans faire d'erreur. Il est donc encore un peu tôt pour parler de super cycle sur les produits pétroliers. Les méthodes bases, enfin, sont un peu dans la même situation. Marché dominé par la Chine et l'Asie du Sud-Est, pays qui représentent environ 70% de la demande de la plupart des métaux de base, la reprise plus précoce de cette zone géographique après la crise sanitaire a propulsé les prix des métaux de base sur des niveaux qu'on n'avait plus connus depuis plusieurs années. Mais tout ceci est-il justifié ? Encore une fois, sur le court terme, on est en droit de se poser la question. En particulier, les derniers chiffres macroéconomiques en provenance de Chine, tant des directeurs d'achat que de l'immobilier, de gros postes de consommation de métaux, interrogent. Tous ces éléments nous laissent à penser que le marché, comme d'habitude, a un peu devancé la reprise économique et que le secteur des matières premières pourrait rester volatile. Mais maintenant, si l'on adopte un point de vue un peu plus long terme, l'image et les perspectives changent. D'abord sur le pétrole. Compte tenu de la période de prix déprimée depuis plusieurs années, encore renforcé par la crise sanitaire, l'investissement des entreprises pétrolières dans le développement de nouvelles ressources s'est effondré. La conséquence pourrait être qu'en sortie de crise, si nous revenons sur notre rythme historique de consommation d'hydrocarbures, la production pourrait être insuffisante pour faire face à la demande. Patrick Pouyanné, PDG de Total, s'en est d'ailleurs fait l'écho récemment. Selon lui, dans les conditions actuelles, nous risquons de manquer de 10 millions de barils par jour, soit 10% de la consommation pré-pandémie, en 2025. Cela veut dire que le problème se posera probablement bien avant cette date. Le souci est que nous devons relancer notre économie, si possible en tenant compte des nouvelles contraintes environnementales, mais que nous ne sommes pas encore prêts. Les énergies fossiles représentent toujours environ 80% de notre consommation d'énergie et les infrastructures d'énergie décarbonées ne sont pas prêtes à prendre le relais. Comme nous devons relancer l'économie le plus vite possible, le problème climatique passe donc au second plan. C'est le sens des remarques faites récemment par le Haut Conseil pour le Climat, qui indiquait que la France consacrait une part trop faible de son plan de relance à l'économie propre, ou de l'ONU, qui rappelait, il y a quelques jours, que les mesures annoncées par les pays de l'OCDE ne permettraient de réduire leurs émissions que de 0,5% à horizon 2030, là où ces pays se sont engagés à des réductions de 45%. Les prix du pétrole devraient donc, du fait de cette non-préparation, poursuivre leur hausse pour retrouver possiblement les $100 le baril dans les 12 mois qui suivront la fin de la crise, même si d'ici là, ils pourraient connaître une grande volatilité. Il en va de même pour les métaux de base, montés sans doute trop vite. Ils sont en train de connaître une correction qui pourrait se poursuivre quelques semaines ou quelques mois, avant de revenir sur une tendance que l'on pourrait qualifier de supercycle. Pourquoi ? Parce que la transition énergétique est en train de transformer notre dépendance aux énergies fossiles en dépendance aux métaux, indispensables à cette transition. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on ne fait pas d'électricité avec du vent. Le vent contient de l'énergie, mais il faut un transformateur pour la transformer en électricité. Pareil pour le soleil. Il va donc falloir construire énormément d'éoliennes et de panneaux solaires, tous énormément consommateurs de métaux. Cuivre pour les réseaux et les voitures électriques, argent pour les panneaux photovoltaïques, nickel, cobalt, lithium pour les batteries, platine pour l'hydrogène, etc. Si ces métaux peuvent donc connaître une pause à court terme, c'est sans doute ce secteur qui bénéficie réellement de perspectives de super cycle à long terme. La transition énergétique ne se fera pas sans métaux, qu'ils soient de base ou précieux. Il y a donc de bonnes raisons d'espérer un nouveau super cycle des matières premières, mais il faut garder en tête que celui-ci devrait être court du fait d'une tendance qui devrait s'inverser sur les produits énergétiques, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, car il va nous falloir nous débarrasser de ces énergies fossiles, ce qui devrait progressivement pousser leur prix à la baisse. Mais cela veut aussi dire que nos besoins en métaux vont très nettement augmenter. Et on ferait mieux de s'y préparer, tant industriellement qu'économiquement et politiquement, sous peine que la transition soit une nouvelle période indispensable, mais difficile pour notre économie.
La chronique des matières premières, une émission à réécouter et télécharger sur radio-patrimoine.fr, l'application mobile Radio Patrimoine et tous les agrégateurs de podcasts.